Vous êtes sur RTL.
Votre dossier.
Jusqu'à 10h sur RTL, nous voilà bien avec Flavie Flamand.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Encore un numéro de Nous voilà bien placé sous le signe du confinement. J'espère que vous vous portez bien et que vous gardez le sourire. Nous ici en tout cas, on le cultive comme tous les samedis de 9h15 à 10h sur RTL. Restez avec nous, on va apprendre aujourd'hui encore plein de choses bien utiles en ce moment. En période de confinement, alors que les urgences sont saturées, les accidents domestiques se multiplient. Alors comment réagir et quel bon réflexe adopter si l'on se blesse? Le docteur Pascal Cassan va nous délivrer ses précieux conseils dans un instant. Vous avez cassé vos lunettes ou vous avez mal aux dents et vous ne savez pas vers qui vous tourner? Bonne nouvelle, il existe des solutions. Vous les découvrirez tout à l'heure. Et si on profitait du temps que l'on partage avec nos enfants pour les initier à la cuisine et à l'élaboration de recettes, comment leur mettre le pied à l'étrier? Atelier Petit Chef un petit peu plus tard dans l'émission avec Ligori, chef du site cuisineaz.com et le chef Cyril Lignac.
Allô maman, bobo. Maman, comment tu m'as fait, je suis pas beau. Allô maman, bobo.
Docteur Pascal Cassan, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, merci tout court d'ailleurs, merci à vous tous, vous êtes médecin urgentiste, vous êtes conseiller national à la Croix-Rouge française, vous êtes auteur d'un ouvrage qu'on n'a pas tous à la maison mais qu'on devrait tous posséder, Les premiers secours pour les nuls aux éditions First. Alors d'abord, comment allez-vous docteur Pascal Cassan, parce que je sais que vous êtes sur le terrain.
Eh bien, comme tous les médecins, comme tous les professionnels de santé, on est fatigué, mais c'est notre rôle. Et on est auprès de la population qui souffre, qui a une pénibilité de cette période. Et on essaye de faire eh bien, notre travail comme d'habitude, mais c'est pas tout à fait comme d'habitude.
Voilà, et nous qui nous portons bien, en tout cas, sachez à quel point nous vous sommes tous reconnaissants et pleins de gratitude justement pour vous, médecins et tous ceux qui sont donc en première ligne aujourd'hui dans cette période si particulière. Alors, rester chez soi, c'est se protéger, c'est protéger les autres aussi de l'épidémie. Mais la maison, en fait, c'est pas uniquement un lieu protecteur. Hein. Je dirais que plus encore aujourd'hui, il nous faut être prudent à la maison.
Oui, bien sûr, parce que dans tous les gestes de la vie quotidienne, eh ben, on s'expose, et c'est pas parce que effectivement on est plus longtemps à la maison que ces accidents vont diminuer, bien au contraire. Et les tout petits sont avec nous, et il faut redoubler de prudence de façon à ne pas avoir d'accident, que ce soit dans la cuisine, dans la salle de bain ou dans le reste de l'appartement.
Alors c'est vrai que la prudence, elle est de mise, mais quand on se blesse malgré tout, on ne sait pas toujours quoi faire. On nous dit toujours, en temps normal, je dirais, d'appeler le 15 ou les pompiers. En ce moment, ils sont saturés. C'est aussi pour ça qu'on fait cette émission. Quels sont les conseils que vous pourriez nous donner quand on a un pépin, justement, et qu'on veut éviter d'aller aux urgences, d'appeler les pompiers ou de faire le 15? Il y a des gestes qu'on peut adopter à la maison en attendant de voir si ça peut aller mieux?
Bien sûr, en fait, le principe même de toute petite blessure qui se produise à la maison, eh bien, c'est d'abord d'évaluer sa gravité. On va le voir, que ce soit une plaie, que ce soit une brûlure ou toute autre chose. En fait, on va essayer encore plus dans cette période de confinement, eh bien, de voir si on peut se traiter soi-même et si on a des ressources, hein, aussi. On a la téléconsultation, on a le pharmacien qui est ouvert. Donc, fort heureusement, il nous reste un environnement qui va nous permettre de prendre en charge ces petites urgences qui, surtout, eh bien, ne doivent pas aller dans cette période surchargée vers l'hôpital.
Alors, comment est-ce qu'on peut évaluer aussi si nos blessures sont bénignes ou sérieuses? Par exemple, moi, la semaine dernière, je me suis tordu le poignet. Vraiment, je me suis retrouvée avec le poignet tout bleu. Je ne savais pas quoi faire. Je suis allée sur Internet et j'ai finalement mis de la glace. Et aujourd'hui, tout va très bien. Mais c'est vrai que je me suis demandé à partir de quel moment dois-je m'inquiéter et consulter?
Bah, c'est exactement ce que vous avez fait, en fait, d'abord, en ce qui concerne les traumatismes. Parce que c'est vrai qu'on peut se faire mal en faisant d'abord un peu de sport à la maison, c'est sain, mais bien sûr, on peut, eh bien, se faire mal. Dans ce cas-là, on va voir si, eh bien, la zone qui me fait mal, d'abord, eh bien, je peux toujours la bouger. Si effectivement elle est gonflée, qu'elle est un peu bleue, eh bien, je vais faire, comme vous l'avez très bien fait, en l'occurrence, du froid. Je vais le mettre pendant une quinzaine de minutes, et puis je vais voir si tout tout ça rentre dans l'ordre avec un simple comprimé de paracétamol et je vais surveiller. Au moindre doute, ensuite, bien sûr, là aussi, je peux prendre conseil. De toute façon, les cabinets de radiologie sont ouverts. Alors donc, en ce qui concerne ce genre de traumatisme, je vais pouvoir avoir le cas échéant peut-être une radio si vraiment j'ai soit une déformation, soit une impossibilité totale de bouger mon poignet ou mon bras. Et puis il y a d'autres blessures que l'on peut très simplement évaluer. C'est la brûlure, par exemple. La brûlure, eh bien, d'abord je l'arrose très très abondamment. Lorsque je me brûle dans ma cuisine, eh bien, je l'arrose pendant une dizaine de minutes jusqu'à disparition de la douleur. Et puis je regarde
haute température froide ou température.
L'eau du robinet. L'eau du robinet est froide. Surtout pas de glaçon parce que ça abîme plus sa peau et donc c'est vraiment de l'eau courante. Et puis je vais mesurer cette brûlure. Elle ne doit pas être supérieure à la paume de la main de la victime. Alors si je dis la victime parce que si c'est un enfant, vous comprenez que c'est tout de suite bien sûr une surface un petit peu plus petite. Mais si cette brûlure, eh bien, je l'ai bien arrosée. Si je l'ai mesurée qu'elle est inférieure à la paume de la main de la victime, là encore, c'est une brûlure simple. Et je pourrais simplement la surveiller dans les jours qui suivent pour regarder si elle ne devient pas rouge, chaude ou douloureuse. Dans ce cas-là, j'aurais besoin d'un conseil médical à distance.
Alors justement, on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Vous parliez des brûlures, donc là, on va parler de la cuisine, hein, parce qu'effectivement, aujourd'hui, plus que jamais, on regarde d'ailleurs sur les réseaux sociaux, tout le monde se met à la cuisine parce que ça fait partie des occupations. On en parlera dans un instant d'ailleurs avec Ligori et Cyril Lignac. Hein. La cuisine, on a tendance en plus à la faire avec nos enfants. On a parlé de la brûlure. Comment ça se passe aussi quand on se coupe, docteur Cassan?
Eh bien, écoutez, quand on se coupe, la seule chose qu'il faut avoir à l'esprit, c'est j'appuie là où ça saigne. Fort heureusement, je ne me suis pas amputé le doigt à cause de mon couteau. J'ai le plus souvent, heureusement, des plaies qui sont simples, mais qui saignent bien parce que la main, c'est une partie extrêmement bien vascularisée. Donc, premier réflexe, j'appuie avec ma main. Donc, soit je le fais moi-même parce que je peux m'auto-secourir. Et puis, si bien sûr, c'est un de mes proches, mon mari, mes enfants, eh bien, je vais appuyer là où ça saigne. Et là, eh bien, ça va s'arrêter. Ça doit forcément s'arrêter parce qu'on appuie suffisamment fort. Et puis ensuite, eh bien, ensuite, je vais faire un petit pansement compressif. En fait, là, je fais ça avec un petit paquet de compresses, par exemple. Je prends 4-5 compresses. Je vais appuyer sur l'endroit qui saignait et je vais faire un bandage avec ce que j'ai à la maison. Et comment je vois que c'est grave ou pas grave? Eh bien, d'abord, premièrement, le pansement ne s'imprègne pas de sang. Donc, ça veut dire que l'hémorragie est bien arrêtée. Et qu'ensuite, eh bien, dans les jours qui vont suivre, eh bien, je vais effectivement surveiller cette plaie. Là encore, elle doit ne pas être rouge, ne pas être chaude, ne pas être douloureuse, parce que ce serait synonyme d'infection. Et à ce moment-là, j'irai voir dans un premier temps mon pharmacien, qui est ouvert dans cette période, ou bien, eh bien, je téléconsulterai si nécessaire.
D'accord. Ça veut dire que la peau, pardonnez-moi de le dire comme ça, mais est magique. C'est-à-dire que si je compresse bien aussi, ça va cicatriser et ma peau va se recoller. La coupure va disparaître.
Tout à fait. En fait, c'est le principe des plaies simples, fort heureusement. C'est que effectivement, la cicatrisation se fait d'elle-même. Alors bien sûr. Si je disais, eh bien, je vérifie que cette plaie ne continue pas à saigner dans les minutes, voire les heures qui vont suivre. C'est que dans ce cas-là, elle serait trop profonde pour que, effectivement, dans ce cas-là, eh bien, j'ai besoin d'un conseil médical ou pharmaceutique rapidement. Mais sinon, fort heureusement, la plupart des plaies simples, eh bien, vont tout simplement, eh bien, se cicatriser seules et nous n'aurons aucune conséquence de cette plaie.
Alors, on va parler du sport dans un instant et puis on a des questions qui nous sont arrivées aussi sur nos réseaux sociaux au sujet des enfants. C'est vrai que ça fait partie des inquiétudes des parents. Hein. On a des enfants qui, tout à coup, investissent, je dirais, nos salons, se mettent à les transformer en parcs d'attractions, font des roulades, sautent des lits, tombent des canapés, se cognent aussi, parfois se blessent. Vous allez poursuivre vos conseils dans un instant. On se retrouve tout de suite, hein, docteur Pascal Cassan sur RTL.
Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand.
Nous voilà bien, c'est le magazine pratique de vos samedis matins. Nous sommes ensemble de 9h15 à 10h. Merci d'être avec nous, merci pour votre fidélité. Un magazine d'autant plus pratique et utile aujourd'hui que l'on vous donne des conseils. Enfin, c'est pas moi qui vous les donne, c'est le docteur Pascal Cassan qui est notre invité. Et grâce à lui, on vit notre confinement à la maison en toute sécurité. Alors, on aura tous reconnu la pub pour la préparation H, les hémorroïdes, docteur Pascal Cassan. Bon, ça, c'est pas lié qu'au confinement, hein, mais enfin, bon, c'est toujours bon d'en avoir peut-être aussi chez soi. On vous écoute avec tous les conseils que vous nous donnez. Qu'est-ce qu'on doit avoir dans une trousse de secours classique, d'ailleurs, en dehors d'une crème pour les hémorroïdes? Vous nous parliez d'antiseptique, il faut avoir des pansements. Quels sont les conseils que vous pouvez nous donner?
Tout à fait. Bon, d'abord, pensons à avoir déjà de l'eau et du savon, comme je disais. Ça fait pas partie de la trousse de secours, mais c'est le premier geste. Et puis après, effectivement, on a un petit peu de matériel à avoir chez soi, ne serait-ce que parce que on peut en avoir besoin immédiatement. C'est bien sûr l'antiseptique. Alors, comme je vous le disais, toujours un seul antiseptique, ça sert à rien d'en avoir plusieurs. D'abord parce qu'il y a des produits qui sont incompatibles, donc qui vont éventuellement provoquer des brûlures, des réactions. Donc, un seul antiseptique. Vous prenez le conseil de votre pharmacien et vous aurez le bon antiseptique. Ensuite, eh bien, vous allez acheter quelques compresses parce qu'il vous faut que des compresses stériles. Ensuite, il vous faut un ciseau qui va, le cas échéant, coûter le sparadrap que vous aurez également acheté. Et puis, des petites bandes qui vous permettront de maintenir ici ou là la compresse si ça se situe dans un endroit qui n'est pas si facile à bloquer. Donc voilà, c'est très simple. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'avoir énormément de produits avec soi pour faire face aux petits bobos de la maison.
Alors, avec le confinement, les sportifs font du sport chez eux. Et d'ailleurs, parfois, les pas sportifs non plus, ce qui provoque aussi quelques blessures. Donc, il faut y aller quand même mollo, essayer d'avoir une activité sportive, je dirais, la plus adaptée possible. On peut se faire mal. Moi, je n'ai jamais su, lorsque je me faisais mal, docteur Pascal Cassan, si je mettais du chaud ou du froid sur mes blessures. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment réagir en fonction du mal que l'on s'est fait?
Bien sûr, en fait, effectivement, chaud ou froid, en fait, c'est une bonne question. La première, c'est si je me fais un traumatisme en général. Vous le voyez sur les terrains de sport, vous voyez nos rugbyman, vous voyez nos footballeurs, lorsque l'on prend un coup, lorsque l'on a donc un traumatisme qui peut engendrer un hématome, ça veut dire ça gonfle, ça devient bleu, là, c'est le froid. C'est le froid. Pourquoi c'est le froid? Parce que ça va diminuer la douleur, ça va empêcher de saigner sous la peau et diminuer donc l'hématome, et ça va permettre donc de garder un membre dans un état qui dans un jour ou deux on n'y pensera plus. Le chaud, lui, c'est autre chose. C'est que lorsque on se fait une lésion musculaire, on se fait effectivement une élongation, on se fait quelque chose qui comme un torticolis, et là c'est le chaud qui va permettre effectivement de réduire cette réaction inflammatoire qu'on a. Et dans ce cadre-là, ça joue bien sur les contractures et ça nous soulage.
Alors, est-ce qu'on pourrait simplifier en disant que lorsqu'il y a un choc, on met du froid, et lorsque l'on sent que c'est quelque chose de plus profond, plus musculaire, on met du chaud, c'est ça?
Absolument, très bien.
D'accord. Ah bah voilà, super. Bon, one point pour Flavie Flamand, c'est super, très bien. Nos enfants, pareil, nos enfants, ils se cognent, ils se coupent, on l'aura compris, vous nous avez donné des conseils. Ils font des cavalcades, ils sautent dans tous les sens. Quels sont les conseils qu'on peut donner aux parents qui nous écoutent?
Là, je vois bien la maman expérimentée qui voit ses enfants faire des cavalcades dans la maison depuis quelques jours. Alors, c'est le choc sur la tête auquel on pense. C'est le traumatisme crânien. C'est toujours un grand mot. Mais en tout cas, lorsque même dans les temps habituels, lorsque vous êtes inquiète, vous, maman, papa, face à un traumatisme crânien, en général, effectivement, on appelle le 15 et on demande des conseils. Là, en fait, il faut savoir que les coups sur la tête, il faut simplement simplement les surveiller. C'est-à-dire que lorsqu'un enfant est tombé sur la tête, s'il n'y a pas, bien sûr, dans un premier temps, une perte de connaissance ou des vomissements immédiats et un enfant qui n'est pas comme d'habitude, parce que ça, on y attache beaucoup d'importance quand la maman dit qu'il n'est pas comme d'habitude, c'est un signe sur lequel il faut faire attention. La simple chute doit simplement être surveillée dans les 24 heures qui suivent. L'enfant ne doit pas justement présenter des maux de tête, ne doit pas vomir, ne doit pas effectivement avoir une attitude qui n'est pas la sienne d'habitude, c'est-à-dire alors qu'un enfant est tonique, etc., là il est plutôt apathique, il est fatigué, il n'a pas les mêmes réactions que d'habitude. Dans ce cas-là, dans la présence de ces signes dans les 24 heures qui suivent un coup sur la tête, là je m'inquiète et je prends un conseil médical.
Très bien. Alors justement, à propos des conseils médicaux, vous allez dans un instant nous expliquer quoi faire quand on se pose des questions et qu'on ne sait pas qui appeler, parce qu'on peut avoir des problèmes de dents, on peut avoir des problèmes gynécologiques, il y a des femmes enceintes qui nous écoutent et c'est tout de suite sur RTL. Allô le monde, allô docteur, c'est la Noiraude. Docteur Pascal Cassan, vous êtes toujours avec nous. Je rappelle que vous êtes médecin urgentiste, conseiller national à la Croix-Rouge française. Et on poursuit donc sur ce volet de la maladie, car la maladie, ça n'est pas seulement le coronavirus. Hein, les pépins de santé courants existent encore et toujours. Il y a beaucoup de personnes qui ressentent des douleurs, qui n'osent pourtant pas appeler les médecins de peur de saturer les lignes. Quelles sont les douleurs qui doivent nous alerter ?
En fait, toute douleur qui persiste, qu'elle soit abdominale ou ailleurs, doit effectivement nous inquiéter. Et dans ce cadre-là, effectivement, il faut essayer de contacter son médecin traitant, parce que heureusement, bien sûr, nos confrères gardent une activité. Ils sont très prudents. Alors, ils le font soit par le biais de téléconsultations, ou bien, ils donnent des rendez-vous, mais très écartés sur le plan du temps, de façon à ce que les patients ne se croisent pas. Mais il est clair qu'aujourd'hui, ces douleurs sur lesquelles, en tout cas, il faut faire attention, ce sont les douleurs qui durent d'abord, et deuxièmement bien sûr il y a certaines douleurs là qui sont des urgences vitales, la douleur dans la poitrine qui serre très fort et comme un étau, là finalement là je vais quand même appeler le 15 parce que vous le savez ça peut être comme on dit une crise cardiaque, c'est-à-dire inaugurale d'un problème de nos coronaires, et là ça ne souffre pas d'exception, ce n'est pas parce qu'on est en période coronavirus que si j'ai une douleur qui me serre la poitrine, qui éventuellement va faire ma mâchoire ou le bras, eh bien dans ce cadre-là, je ferai quand même le 15, car le 15 est là pour répondre aux urgences vitales.
D'accord. Est-ce que tous les médecins continuent à exercer aujourd'hui dans cette période de confinement, docteur ?
Alors, tous, c'est toujours bien difficile à dire. Bien sûr, en particulier, les médecins généralistes sont sur le pont parce qu'ils sont les premiers tri. C'est eux qui font les premiers tri vis-à-vis de ces malades du coronavirus, puisque aujourd'hui, on garde le plus possible ces patients à la maison pour ne pas engorger les hôpitaux. Donc, beaucoup de nos confrères sont sur le pont et on leur doit une fière chandelle. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on doit effectivement essayer de contacter son médecin autant que faire se peut pour que, voir avec lui quelle est la solution du jour. Est-ce que c'est un simple contact téléphonique ? Souvent, c'est le cas. Le médecin vous connaît bien, il va vous donner le bon conseil en quelques minutes. Peut-être vous dire de renouveler votre ordonnance ou de prendre quelque chose qu'il vous a déjà donné. Donc, c'est vraiment lui qui vous connaît le bien. Et puis après, vous avez également les sociétés de médecins d'urgence qui sont joignables H24 dans beaucoup de grandes villes de France, et là aussi n'hésitez pas à les appeler, ils sont là pour ça. Les délais sont longs, soyez patients, on ne peut pas traiter tout en urgence, mais il y aura quelqu'un pour vous répondre.
D'accord. Problème d'yeux, qu'est-ce que je fais si je casse mes lunettes aujourd'hui ?
Alors, ce qui est très intéressant, c'est que très très vite, les ophtalmologistes se sont organisés, les opticiens se sont organisés, et vous pouvez aller directement sur le site urgenceopticien.fr, tout en un mot, ça, urgenceopticien au singulier. Et ça vous permet d'avoir, le cas échéant, une réponse et que l'on vous dise là où on pourra éventuellement vous aider, parce que les lunettes, c'est pas vital, mais c'est quelque chose qui est fondamental pour bien des personnes, et on ne peut pas s'en passer pendant des semaines et des semaines.
Vous restez avec nous parce que certains se demandent quoi faire s'ils ont mal aux dents. Certains ont des prothèses auditives aussi. Il y a des femmes qui ont besoin de renouveler leur pilule et qui ne peuvent pas rencontrer leur gynéco. Et puis, je pense aussi au suivi de grossesse hein, pour les futures mamans qui nous écoutent. À tout de suite, docteur Pascal Cassan.
Avec vous. Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
Je sais que vous êtes attentif aujourd'hui au conseil du docteur Pascal Cassan qui est notre invité. Il est médecin urgentiste. Il vous livre plein justement de conseils pour rester à la maison en cette période de confinement en toute sécurité. Et ce n'est pas fini.
Que voyager, je ne sais pas. Que voyager, je ne sais plus.
C'est vrai qu'on est un petit peu perdu, hein, docteur Pascal Cassan, aujourd'hui. Hein. D'habitude, on appelle notre médecin et on a tout de suite quelqu'un en ligne. Et aujourd'hui, lorsque l'on a un problème à la maison, on n'a pas spécialement envie d'appeler tout de suite notre médecin parce que l'on se dit qu'il a autre chose à faire, car vous êtes tous sur le terrain et soyez-en véritablement remerciés. Si on a mal aux dents, est-ce qu'il y a des urgences dentaires qui sont ouvertes aujourd'hui ?
Oui, tout à fait. Le secteur dentaire bah, a répondu présent également dans la réponse à l'urgence. Alors, on est bien clair hein, que ce sont des urgences dentaires, c'est-à-dire la douleur absolument insupportable que l'on peut avoir. Ce n'est pas le simple soin dentaire qui nécessite à ce moment-là d'appeler le dentiste lorsque nous ne serons plus confinés. Alors, les urgences dentaires, elles existent sur toute la France. C'est un numéro unique, c'est le 09 705 00 205. Alors, c'est quelque chose que c'est un numéro que vous pouvez appeler. Et là, eh bien, si vous n'avez pas pu joindre votre dentiste, eh bien, vous n'hésitez pas, vous joignez ce numéro. Et là, eh bien, on va vous dire, eh bien, dans quel endroit vous allez pouvoir éventuellement vous présenter.
Les problèmes gynécologiques que les femmes peuvent rencontrer aussi. Alors d'abord, si on a simplement besoin de renouveler sa pilule, et ensuite, si on rencontre un problème plus questionnant, je dirais, les femmes peuvent-elles se tourner vers un service de gynéco d'urgence ?
Alors d'abord, concernant la pilule, mais concernant toutes les ordonnances, il faut savoir que vous pouvez renouveler n'importe quelle ordonnance et sans limitation de durée auprès directement de votre pharmacien. Donc vous n'avez pas besoin de vous présenter chez un professionnel de santé. Vous avez votre dernière ordonnance, vous allez chez votre pharmacien, il vous délivrera votre traitement au long cours, que ce soit la pilule, que ce soit un traitement à visée cardiologique ou tout autre, il sera renouvelé et sans aucun problème. Par ailleurs, concernant les femmes, eh bien, sachez que le réseau des sages-femmes est extrêmement efficace et elles continuent très courageusement, tout comme les professionnels de santé, à poursuivre leurs activités. Alors d'abord, des activités en face-à-face, elles poursuivent effectivement la préparation à la naissance et elles effectuent essentiellement également des consultations à domicile pour en particulier eh bien la surveillance des sorties de maternité qui se fait très rapidement aujourd'hui dans ce contexte. Donc surveillance de bébé est eh bien faite par la sage-femme qui vient à la maison. La sage-femme elle est également protégée, elle essaie de se protéger avec le matériel qu'elle a et vient voir bien sûr votre bébé et vous-même la jeune maman. Et puis elles font le suivi de grossesse également par téléconsultation parce que les sages-femmes se sont également adaptés à la téléconsultation et dans ce cadre-là, eh bien, là aussi elles peuvent faire de la préparation à la naissance ou toute autre prévention grâce à la téléconsultation. Donc un réseau extrêmement actif à votre disposition et qui réellement répond aux problèmes de gynécologie simple que peuvent avoir toutes les femmes.
Je vous remercie sincèrement, docteur Pascal Cassan, d'avoir passé tout ce temps avec nous pour nos auditeurs aujourd'hui. Je conseille donc votre livre, hein, Les premiers secours pour les nuls chez First, où l'on retrouvera justement tout ce que vous venez de nous dire, même si vos conseils aujourd'hui étaient évidemment dans le cadre exceptionnel de ce confinement. Merci aussi à vous tous pour tout ce que vous faites pour nous qui sommes confinés, car on n'oublie pas que lorsque l'on se lamente parfois de notre confinement, il en est d'autres comme vous qui êtes aux premières lignes de ce combat que vous réussirez. Voilà, on est tous derrière vous. Merci beaucoup, docteur Pascal Cassan.
Merci à vous.
Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand.
Ça grossit. C'est beau, mon chouchou.
C'est bon, alors on change complètement d'univers. On vous a donné plein de conseils, mais on n'oublie pas aussi que nous voilà bien. Ce sont des bonnes recettes. Et cette envie aussi, chaque week-end, de faire de la cuisine ensemble. Alors, Ligori Lecomte, il est chef du site cuisineaz.com. Bonjour, Ligori.
Bonjour, Flavie. Bonjour à tous.
Est-ce que vous êtes confiné dans votre cuisine, vous ?
Je suis confiné dans la cuisine, dans la maison, exactement.
D'accord, merci d'être avec nous en tout cas pour nos auditeurs aujourd'hui. Le confinement, c'est l'occasion de partager des activités justement avec nos enfants et notamment la cuisine. On recevra d'ailleurs tout à l'heure Cyril Lignac qui nous parlera de ces moments qu'il vit tous les soirs sur M6 dans son émission en direct depuis sa cuisine. C'est important pour vous aussi d'intéresser les enfants à ce qui se passe justement dans les cuisines?
Alors oui, forcément, on a moins de temps en famille. On va savoir que maintenant, beaucoup de gens travaillent tard le soir, les enfants passent plus de temps ou dans la chambre ou dans la télé. Et du coup, on va devoir surjouer le week-end un repas de famille où on va être tous ensemble. C'est pas très très bon sur le long terme. Là, on a vraiment la chance de pouvoir se retrouver. On n'a rien inventé de mieux que la cuisine pour ça. Donc c'est vraiment l'occasion de partager ça avec les enfants.
Très bien. Alors, c'est vrai qu'en plus, ça peut être ludique, mais à partir de quel âge les enfants peuvent-ils commencer à cuisiner, Ligori ? Parce que c'est pas rien, une cuisine. Hein. Il y a des couteaux, il y a du feu.
Exactement. Alors, je vous avoue, j'avais pas mal d'a priori là-dessus il y a quelques années, puis je donnais beaucoup de cours pour des duos parents-enfants, et puis je me suis rendu compte que même avec des petites 4 ans, on pouvait faire des macarons, des sushis, et plein d'autres recettes. Donc, il n'y a pas vraiment d'âge. D'autres sont très dégourdis à 3-4 ans, d'autres un petit peu moins à 6-7 ans. Donc, ça va vraiment être en fonction de chacun.
Alors, comme vous le dites, on l'a vu tout à l'heure d'ailleurs, avec le docteur Pascal Cassan, les accidents domestiques, on les retrouve dans la cuisine. Donc, il faut faire évidemment attention à certains ustensiles potentiellement dangereux pour eux, les couteaux, les robots, les râpes. Ça reste dans le domaine donc des adultes. Si on n'est pas soi-même très à l'aise en cuisine, on peut quand même les intéresser. Puis, je dirais, quelque part, on peut apprendre tous ensemble, non ? Même si on n'a pas un niveau super.
Ah ben exactement, oui, c'est pas forcément, comme on le disait, celui qui est le plus jeune des deux qui va apprendre durant cette période, mais c'est aussi là que des souvenirs vont se créer. On n'a pas besoin de choisir une recette très très compliquée, vraiment le but ça va être de partager, et puis on va choisir une recette ensemble, c'est surtout ça le but du jeu.
Bon, alors qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller justement pour ceux qui nous écoutent et qui se disent, bon allez, c'est samedi, youpi, c'est le week-end, on va cuisiner avec les enfants, quels sont les plats que vous pourriez nous conseiller aujourd'hui?
Alors voilà, un truc rapidement à faire en mode confinement. On va partir sur une quiche et sur une petite compote à faire avec les enfants. Tout ça, c'est hyper facile et ils feront un plaisir de le réaliser avec vous.
Génial, ça va prendre combien de temps tout ça?
Pour faire les deux, là, vous allez en avoir pour une heure à peu près. Donc voilà, c'est garanti,
bah génial,
une heure ensemble.
Voilà. Ah bah super.
Exactement.
Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait?
Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va commencer d'abord par la compote. Moi, ce que je vous propose en ce moment, c'est de mettre des pommes et des kiwis. C'est vraiment un super produit de saison et plein de vitamines, donc bon, je pense qu'on en a tous besoin en ce moment. Donc voilà, c'est vraiment très très facile. Côté parents, vous allez vous charger de couper les pommes en petits morceaux pour éviter les couteaux chez les enfants. Et puis eux peuvent par exemple s'occuper des kiwis, c'est un petit peu moins dangereux à éplucher. Dans une casserole, vous allez mettre tous vos dés, les pommes, les kiwis, puis moi j'y rajoute un petit peu de vanille en poudre, voilà. Et puis, alors, s'il faut, parce qu'elles sont peut-être pas toujours très mûres, juste une pincée de sucre, si vous voulez, un tout petit peu d'eau pour commencer la cuisson. Et puis, vous allez mettre ça à feu moyen pendant environ 20 minutes, de façon à compoter vraiment l'ensemble. L'écraser à la fourchette après ça. Et puis, vous allez mettre dans des petits pots en verre que vous allez laisser sur le côté le temps de réaliser la quiche. Alors, pour la quiche, moi, ce que je peux vous proposer en ce moment, ça va être du fromage de chèvre. Après, vous pouvez y intégrer plein d'autres choses. Ça va être l'occasion d'y ajouter des éléments que parfois les enfants n'aiment pas trop. Mais comme c'est eux qui vont l'avoir fait, ça va passer vraiment tout seul. Ça, c'est garanti. Donc, moi, je peux vous proposer de mettre, par exemple, un petit peu de poireau, par exemple, avec le chèvre. Mais après, avec d'autres légumes qu'on pourrait avoir dans le frigo, on le rappelle, en confinement, en restant chez soi, vous pouvez très bien mettre des éléments que vous avez déjà chez vous, ne pas sortir pour acheter forcément quelque chose. Alors là, très facile. Vous allez étaler votre pâte. Alors moi, j'adore la pâte feuilletée. On va être plutôt dans le fond de votre plat à tarte. Et puis alors ensuite, l'appareil à crème prise, on appelle ça. C'est vraiment très, très facile. Vous allez prendre 20 centilitres de lait, 20 centilitres de crème, 2 œufs et 2 jaunes. Vous allez mélanger tout ça dans un bol. Vous allez bien assaisonner parce que sinon ça va être très très fade. Vous pouvez même y ajouter une petite épice, curry par exemple, pour colorer un petit peu la quiche. Et puis alors dans votre fond de tarte, vous allez y mettre quelques rondelles de chèvre, vous allez y mettre des poireaux que vous aurez fait juste avant sauter, voilà, pour pas qu'ils rentrent trop d'eau dans votre quiche. Et puis vous allez recouvrir ça avec votre appareil à crème prise. Vous allez y mettre encore un petit peu de gruyère sur le dessus. Et puis vous allez enfourner ça environ 30 minutes à 200 degrés, thermostat 6-7 dans votre four. Et puis ce sera parfait. Vous aurez vraiment tout fait, je vous dis, en moins d'une heure. C'est hyper facile à faire avec les enfants. Et puis le repas sera prêt. Ils sont hyper fiers de l'avoir fait et puis d'avoir régalé toute la famille.
Eh bien, je vous remercie vraiment, hein, Ligori Lecomte, pour ces bons conseils pour nos auditeurs. D'ailleurs, pour ceux qui vous ont écouté religieusement mais qui n'ont pas tout retenu, je tiens à préciser que ces recettes seront mises en ligne sur les réseaux sociaux de Nous Voilà Bien. Et je rappelle aussi qu'on peut retrouver plein de recettes sur le site cuisineaz.com. Bon, bah, puisque j'ai le droit de le faire par téléphone et par le biais de la radio, je vous embrasse, Ligori, en attendant de vous retrouver bientôt dans notre studio.
Merci beaucoup, à bientôt, Flavie.
Prenez soin de vous et de vos proches.
Merci,
à bientôt, Ligori.
Merci, à bientôt.
Allez, nous, on se retrouve tout de suite dans Nous Voilà Bien. On est en train d'appeler Cyril Lignac en ce samedi matin. Il sera avec nous tout de suite sur RTL.
Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand.
Soutenons ensemble.
Et de faire. Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand.
Nous voilà bien, le rendez-vous de vos samedis matins. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h. Alors, on vous a donné plein de conseils hein, aujourd'hui pour rester en sécurité dans vos appartements en cette période de confinement. On a parlé avec Ligori Lecomte, chef du site cuisineaz.com, de l'intérêt de la cuisine avec les enfants. Cette cuisine qui est mise à l'honneur tous les soirs sur M6.
Pour le gâteau, on met des nuages de mousse, des flocons de sucre et surtout des kiri. Très bonne idée.
Un gâteau avec du kiri.
Ben oui, c'est ça l'idée de Jenny.
Et hop, au four.
Et oui, ces enfants qui sont avec nous 24 heures sur 24 en ce moment, c'est pas toujours facile dans les foyers, mais alors il y a une activité qui permet à la famille de se retrouver et là ça apaise, je dirais, tous les tourments, c'est la cuisine. Cyril Lignac est avec nous. Salut Cyril.
Bonjour, comment ça va?
Ah bah ça va et toi?
Eh ben super.
Merci d'être avec nous en ce samedi matin. Tu es le chef préféré des Français. On te retrouve du lundi au vendredi à 18h45 sur M6 dans Tous en cuisine. Alors en fait, ce qui est génial, c'est qu'on a l'impression d'être chez toi. Hein. Moi, j'étais encore devant ma télévision hier, avant-hier, quand tu recevais aussi Anne-Marie Vin. Tu es en live dans ta cuisine. Tu proposes de préparer un menu simple, facile à réaliser. Puis en fait, il y a plein de familles dans toute la France qui se retrouvent en duplex, qui sont avec toi, qui essaient de suivre tes instructions, tout comme Jérôme Anthony aussi. Donc, elle était un petit peu dure avec Jérôme Anthony. Il est souvent à la ramasse ou pas?
Bah, disons que ce qui est bien, donc déjà, en effet, quand tu me dis on a l'impression d'être dans ta cuisine, on est bien dans ma cuisine chez moi à la maison.
C'est vrai. On a
donc, ça, c'est une force de ce programme. C'est que c'est vrai qu'avec le confinement, on n'avait pas du tout prévu de faire une émission de cuisine à la télé, loin de là. Et puis, j'avais fait une recette. Via Instagram et ça a tellement marché qu'on s'est dit mais pourquoi on n'essaierait pas de faire un rendez-vous et de partager le quotidien de tout le monde parce que finalement on est tous confinés, que moi je descends en bas de chez moi pour faire des courses, que je me fais à manger, j'ai envie de dire comme tout le monde, peut-être pas comme tout le monde mais en tout cas je prends des produits très simples et je cuisine pour me nourrir matin, midi et soir. Jérôme, ce qui est bien, c'est que lui, il n'a jamais mis un pied dans la cuisine, donc il est...
Mais c'est ça qui est génial, j'adore. Mais oui, mais je pense qu'à la fin du confinement, on pourra tous aller dîner chez Jérôme Anthony, qu'on embrasse, là, hein, parce que moi, il me fait hurler de rire le soir. Hein. Je pense que grâce à toi, on va en faire un vrai cuistot, quoi.
Je pense que c'est assez amusant, d'ailleurs, parce qu'il mange... Ben forcément, on mange ce que l'on fait, parce que c'est aussi le principe de se détendre, de se changer un peu les idées, parce que c'est vrai que quand on allume la télé par ces temps qui courent, c'est quand même pas joyeux, c'est même très anxiogène. Donc le principe, c'est de s'amuser, de se détendre et aussi de passer à table. Donc Jérôme, il me dit, j'ai jamais aussi bien mangé que depuis que je suis confiné. Donc c'est plutôt bien.
Attends, nous non plus, hein, parce que on est dans notre cuisine et on te suit. Et moi, vraiment, j'adore ce rendez-vous, Cyril, parce que c'est un vrai rendez-vous et un vrai rendez-vous simple. Alors, il y a un truc aussi qui me plaît, c'est que les téléspectateurs peuvent participer avec toi. Et là, pour le coup, tu vois, en parler de la cuisine avec les enfants, c'est fabuleux parce que c'est transgénérationnel, quoi. Hein. Il y a des parents, des enfants, des grands-parents. Il y a cette idée qu'on peut partager vraiment ce plaisir.
Ben, disons que moi j'aime assez à dire que il y a déjà bien longtemps bien entendu, mais à l'école à l'époque il y avait ce qu'ils appelaient les cours de science et vie, oui. dans le sens où, pas science et vie, mais les choses de la vie, où on t'apprenait la couture, où il y avait des cours de cuisine. Il y a même des pays dans l'Europe où il y a des cours de cuisine pour les enfants, comme, qui est une matière comme les maths, la langue ou la géographie. Et finalement, c'est un joli bagage que l'on donne aux enfants de savoir cuisiner. Donc là, comme on est tous confinés à la maison, c'est intéressant de partager. Bien sûr, les enfants font l'école, mais après, de les mettre en cuisine pour les occuper, pour leur faire découvrir des saveurs, pour aussi s'amuser à des jeux de grands, parce que la cuisine, finalement, on le fait avec papa, maman, papy, mamie. Et donc, du coup, il y a ce côté très familial, à la fois sain, et qui permet de cultiver l'enfant à travers le bien manger, se nourrir, et lui donner finalement ce petit bagage qui lui servira plus tard de savoir se faire à manger. Le plus simple possible, mais de savoir se faire à manger. Et ça, c'est quand même formidable.
Ouais, et puis de découvrir aussi les fruits, les légumes, de connaître les produits. Moi, j'ai été élevée à la campagne, tu vois, et je sais que c'est une grande force pour moi d'avoir pu passer du temps dans le potager bien avec mon grand-père, cette idée de la transmission, tu vois, et savoir ce que l'on mange, bah, c'est forcément mieux s'alimenter. Est-ce que tu aurais une petite recette à partager comme ça avec ceux qui nous écoutent, parce que c'est le week-end. Alors, c'est vrai que chaque jour se ressemble, là, en ce moment.
Oui, c'est vrai.
Mais certains vont se dire avant l'émission de lundi, là, on va pouvoir faire quelque chose avec les enfants. Je crois que tu avais une idée de cookies, c'est ça?
C'est assez marrant parce que dès qu'on a démarré le confinement, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est de faire des cookies. Parce que je trouve que, déjà, c'est simple, ça rassemble tout le monde, c'est un biscuit qui se garde un jour, deux jours quand le cuivier est moelleux. Et puis on peut le manger au goûter, comme on peut le manger au petit déjeuner, comme on peut le briser sur une petite glace à la vanille avec un chocolat chaud. Donc on peut en faire un topping, on peut faire plein de choses. Quoi, voilà.
D'accord. Alors,
voilà, une petite recette de cookies très simple. Il faut pas grand chose, il faut du beurre mou, 85 grammes de beurre mou, un œuf, 85 grammes de sucre, 150 grammes de farine, 100 grammes de chocolat noir. Une cuillère à café, une petite pincée de sel et un petit sachet de levure chimique. Ce qui me plaît dans ce principe, c'est que dans le cookie, on peut y mettre ce que l'on veut. On peut le mettre aux pépites de chocolat noir, chocolat au lait, aux amandes, aux noix de pécan, à la cacahuète salée, des éclats de banane. C'est une manière aussi de customiser une recette et aussi de la faire un peu comme on aime, de la personnaliser. Okay. Donc, ce qui me plaît aussi là-dedans, c'est qu'on peut faire la pâte samedi et puis on peut commencer à en cuire un petit peu pour le samedi soir et puis on garde la pâte crue dans le frigo et puis lundi on en remet à cuire et on en a pour lundi soir ou mardi.
D'accord.
Ça se conserve. La pâte crue, hein.
La pâte crue,
on la met dans du papier film, on la garde bien deux jours facilement, deux ou trois jours. Et après on fait des petites boules et on fait des petits cookies. Voilà.
Alors qu'est-ce que je fais? Donc je mélange tous mes ingrédients. En fait.
Alors qu'est-ce qu'on... Alors exactement. Donc en premier, on découpe les pépites de chocolat où on émiette donc le chocolat. On préchauffe le four à 180 degrés. Dans le saladier, on met 75 grammes de beurre, donc du beurre pommade. On ajoute le sucre, l'œuf, la vanille. On mélange et ensuite on ajoute la farine, la levure, la pincée de sel et les pépites de chocolat ou les fruits secs ou des petits morceaux de banane. Et ensuite, on mélange bien tout ça. On fait un petit boudin. Et ensuite, on coupe au couteau. Tac. Et ça nous fait des petits rondelles de cookies. Alors, attention, parce que à la cuisson, ça s'étale beaucoup. Et moi qui les aime bien moelleux, je les cuis à peine 8-9 minutes. Parce que je les aime bien moelleux à l'intérieur. Si on les aime croustillants comme un biscuit sablé, alors on les laisse 10-12 minutes. Ils sont bien plus colorés et bien plus croustillants. C'est deux manières de manger le cookie. Soit on l'aime moelleux, soit on l'aime croustillant. Donc voilà, ça aussi c'est un choix, comme on veut.
Super. Bah, écoute, je sais quoi faire cet après-midi. Merci beaucoup pour cette recette, Cyril Lignac. Bon, bah, je te retrouve lundi sur M6, hein, 18h45 du lundi au vendredi. Alors, tu sais, on n'a pas le droit de le faire en cette période. Mais nous, à la fin de cette émission, de toute façon, grâce à Philippe Catherine, on se fait toujours...
Bisous.
bisous. On se fait des bisous. Alors, je t'envoie plein de bisous, Cyril Lignac. Merci, d'avoir passé ce temps avec nous. On te retrouve tout à l'heure, d'ailleurs, hein, dans le journal inattendu à 13h sur RTL, présenté par Ophélie Meunier. Et donc, lundi sur M6 à 18h45. Je t'embrasse. Prends soin de toi.
Merci.
Merci pour tout. À bientôt.
Au revoir,
salut,
merci
Cyril.
Beaucoup.
Si vous n'avez pas tout retenu de cette émission, rendez-vous sur le replay sur RTL.fr et sur nos réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous lundi dès 14h30 en direct de mon salon. Et oui, c'est ma nouvelle routine. Pour en effet, pour s'entendre, le magazine du partage et de la réflexion. Passez un très bon week-end à l'écoute d'RTL. Toutes nos équipes sont mobilisées plus que jamais pour vous accompagner pendant cette période très particulière que nous vivons. Alors surtout, prenez soin de vous, restez chez vous. Et puis, si vous pouvez le faire, faites-vous des bisous. Je vous embrasse.